À Rencontre spirituelle aujourd'hui, nous pourrions aborder un problème œcuménique extrêmement important dans cette semaine de Pâques. C'est le problème de cette séparation tragique qui s'est opérée il y a déjà plusieurs siècles en Europe entre catholiques et des réformateurs du catholicisme qui se sont finalement détachés de nous, qui ont formé ce que l'on appelle généralement les protestants. Et je vous ai déjà fait des émissions sur Calvin, grand réformateur français réfugié à Genève. J'en ai fait une sur Martin Luther il y a 2 ans, le 16 février 1996. J'en ai fait sur bien d'autres, sur Jean Hus, etc. Et aujourd'hui, je reviens à Luther. Je ne vais pas vous raconter encore sa vie, qui est une vie tragique. C'est la vie, en fait, d'un jeune Allemand qui avait une mère qui le battait jusqu'au sang à l'occasion, c'est ce qu'il raconte. Et à 21 ans, il entre dans un monastère et devient un spécialiste de la Bible. Et finalement, son tempérament bouillant, son esprit critique qui est justifiable à une époque où l'Église a bien des problèmes. Il y a eu le pape Alexandre VI, au temps de sa jeunesse, qui était un pape plus ou moins intéressant. Et on peut voir dans des revues très populaires, comme cette excellente revue quand même, des rédemptoristes, qui s'appelle la revue Sainte-Anne, une question qui avait été posée il y a quelques années au bon Père Mercier. C'était « Depuis quand les protestants sont-ils protestants ?» Bien des gens se posent cette question et savez-vous que beaucoup de gens ignorent ça. Les questions qui peuvent surprendre, mais ce sont les préoccupations de chacun. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écuménisme et d'unité des chrétiens sans expliquer au juste qu'est-ce qui s'est passé au début. Essayons de savoir ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Savoir l'origine, au fond, des divisions dans l'Église, il me semble que ça faciliterait l'approche de nos frères que nous considérons comme séparés. Ainsi, je pourrais parler des églises orthodoxes que j'aime beaucoup, mentionner les causes profondes qui ont occasionné cette grande scission entre les églises orthodoxes et l'Église catholique il y a près de 1000 ans. Pour le moment, on va s'en tenir au groupe des protestants. Il faut résumer, hein? Résumer beaucoup. C'est pas facile. Parce qu'il y a des événements historiques assez complexes qui sont à l'origine de cette division entre nous catholiques et nos frères protestants. Mais je sais qu'il y a des protestants qui m'écoutent. Une voisine toute jeune, qui a une vingtaine d'années, me disait qu'elle m'écoutait. Une anglophone, qui comprend très bien le français, qui le parle bien, qui vient de l'Ontario, je crois, qui étudie à McGill et qui m'écoute. Je suis surpris. Il faudrait discuter de tout cela avec beaucoup d'égard, hein? Pour les uns et les autres, il me semble qu'il faut un grand respect d'abord quand on parle des protestants, et je demanderai aux protestants d'avoir un grand respect quand ils parlent de nous. Nous croyons, nous, que l'unique vraie religion, d'accord, subsiste dans l'Église catholique et apostolique. C'est notre foi. Mais il faut le dire bien calmement, avec beaucoup de respect. Parce que, de toute façon, c'est défini par les conciles, et particulièrement les documents du Concile Vatican II sur la liberté religieuse, quand même. Et je n'ignore pas, quant à moi, qu'à la source des conflits, il y a non seulement des problèmes d'ordre théologique, mais aussi des raisons naturelles, des incompréhensions, des limites humaines, vraiment déplorables. C'est un étrange mélange de choses. Et les protestants sont protestants, donc, depuis le 16e siècle, disons vers 1517-1521. En fait, ils sont désignés comme tel, comme protestant, des gens qui protestent depuis 1529, alors qu'ils protestaient contre quelques décisions. C'était à l'occasion de la seconde diète de Spire, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer. Avant que ne commence quasi officiellement, là, ce schisme, cette séparation, cette césure, ce drame protestant, déjà déferle une vague de protestations contre l'Église. C'était pas des protestants, mais ils protestaient, des catholiques, ils protestaient contre l'Église, et d'autres aussi peut-être qui avaient quitté. Le Moyen-Âge est terminé, la période de chrétienté est révolue, on peut dire ça à peu près à ce moment-là. Les siècles d'art, de savoir et de mysticisme chrétien, que sont les 12e et 13e siècles, ont sombré dans le passé. Le 14e siècle, donc les années 1300, est venu avec de grandes calamités. Qu'est-ce qui est arrivé pendant le 14e siècle? Vous vous souvenez, la guerre de 100 ans, puis la fameuse peste noire, qui tue une très grande partie de la population. Beaucoup y voient là un jugement de Dieu. Et devant les guerres civiles en Italie, les papes ont dû fuir vers Avignon, en France, dans le sud de la France, où ils demeurent pendant environ 70 ans. Ils sont réfugiés là à cause des guerres. Puis, il y a le grand schisme d'Occident. C'est un schisme spécial, ça dont je dis toujours qu'il faudrait que je vous en parle. C'est l'autorité du successeur de Saint-Pierre qui est alors menacée. Puis il y a deux papes, trois papes, les conciles veulent diriger l'Église pendant cette période qu'on a appelée l'époque conciliaire. Mais parce que l'autorité du pape est affaiblie, il y a des hérésies qui ont beau jeu de se répandre. Et les erreurs se répandent en Allemagne, d'abord. En Bohême, Tchécoslovaquie si vous voulez. En Angleterre. Le terrain se trouve donc préparé pour les grands chefs de la réforme protestante, pour Luther, qui a dit d'excellentes choses, même s'il a dit des choses abominables. Je pourrais vous en citer, c'est affreux. C'est le grand chef aussi Calvin, qui était bien rigide, comme Luther d'ailleurs. Et Knox aussi, dont je vous ai déjà parlé aussi, en Angleterre, en Écosse. D'autant plus que, pendant longtemps, il y a des pays qui luttent contre d'autres pays. L'Allemagne a lutté contre l'Italie. Le nationalisme fait bloc avec des groupements religieux révolutionnaires. C'est-à-dire que tel peuple qui fait une révolution doit avoir une religion. Qui dit ça? Surtout Luther. C'est curieux, hein? En faisant toutes mes recherches, j'ai été surpris. C'est alors qu'apparaît donc ce moine, Martin Luther, en Allemagne. En 1517, il prend position officielle contre Rome par la publication de ses thèses. Vous avez entendu parler de ça, il les affiche sur une porte. Jean Calvin, lui, vient quelques années plus tard pour réformer davantage ce protestantisme qui naît. Et les églises réformées s'ajoutent les unes aux autres, au luthéranisme en particulier. Et la suite des événements, bien, mène à la chute de larges pans de l'Église catholique qui disparaissent dans le protestantisme. Ils ont rejeté l'autorité du pape, celui que l'on considère, nous, catholiques, comme le roc sur lequel le Seigneur Jésus, Fils éternel de Dieu incarné, a bâti son Église. On trouve ça dans Matthieu, au chapitre 16, verset 18. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais ça continue, cet engagement de Jésus à l'égard de Pierre, et nous, nous jugeons de ses successeurs. Je vous rappelle que le tombeau de Pierre, c'est historique, l'archéologie nous le prouve, est situé exactement sous l'autel majeur de l'église de la basilique Saint-Pierre de Rome au Vatican. Et quand le pape célèbre la messe sur cet autel qui ressemble en beaucoup plus grand à l'autel de notre cathédrale de Montréal, eh bien, il célèbre la messe sur le tombeau de Saint-Pierre. Alors, les protestants se divisent en centaines de dénominations différentes. C'est un effritement, groupements importants, ou en sectes protestantes, car les grands mouvements protestants qui sont souvent très près de nous et qui sont en pourparlers avec nous, considèrent eux-mêmes certains groupements protestants, si nombreux, comme des sectes. En ce même 16e siècle, pour retourner à l'arrière, et pour des motifs particuliers, l'Angleterre d'Henri VIII et d'Élisabeth Ière se sépare de Rome. C'est l'origine de la religion anglicane, qui, en grande partie, est passée au protestantisme, on peut dire. Il y a des portions de la High Church, la Haute Église, qui sont très catholiques. Ordres religieux, confessionnaux, chemin de croix, vénération des saints, messe pontificale, lecture des encycliques du pape de Rome, poursuite d'une pensée catholique, tout en demeurant anglican. C'est une minorité. Il y a un peu ici la paroisse, derrière la place des Arts, qui a un peu cet esprit. Il y en a à Toronto, nous avons écouté des chants de cette église de Toronto, Sainte Mary Magdalene. Il y a Sainte Mary the Virgin à New York, qui est extraordinairement catholique. Alors, c'est notre devoir de catholique de vivre notre foi pleinement, authentiquement, mais avec respect des autres, en demeurant attaché aux successeurs de Saint-Pierre et des apôtres, nos évêques. Nous devons aussi prier pour que l'Église catholique, qui est l'Église apostolique, une et sainte, comme on dit dans le « Je crois en Dieu », bien que notre Église réalise chaque jour davantage son unité et sa sainteté, que nous cessions de nous disputer de façon parfois un peu violente au sein de notre Église, selon le désir de Seigneur Jésus, puis que nous sachions accueillir ceux qui voudront bien, les églises qui voudront bien s'unir à nous. Vous savez que notre Église est déjà une union d'une vingtaine d'églises. Je vous en cite au passage les Maronites, les Melkites, ou les Ukrainiens catholiques, les Russes catholiques, etc., les Coptes catholiques, et les églises de l'Inde, dont je vous parlais hier, les Syro-Malankar, les Syro-Malabar, etc. Alors, l'écuménisme doit nous préoccuper jusqu'au fond de notre cœur, avec beaucoup de douceur, et notre prière doit s'élever vers le ciel, pour l'unité de tous ceux qui se disent chrétiens et disciples du Christ, y compris surtout nos frères luthériens. Savez-vous que l'un des hommes que je respecte le plus comme chrétien à Montréal est un luthérien? C'est le pasteur Daniel Pourchaud. J'aurais le goût de l'appeler le père Daniel Pourchaud, tellement je trouve que son âme est belle et catholique dans le sens plaigné du terme. Il faut bien dire qu'au début, Martin Luther ne voulait pas faire une réforme de l'Église qui puisse dégénérer en séparation. Pourtant, dans ses thèses qu'il a affichées en 1517, la thèse numéro 13, porte sur la primauté du pape. Il y a un grand désaccord là-dessus. Luther contestait l'institution divine de l'Église, puis de la papauté, puis se référait aux événements du Concile de Constance. Il a rejeté également l'infaillibilité des conciles généraux qui ont eu lieu depuis le début de l'Église. Et par-dessus tout, bien, il a défendu énergiquement le principe générateur, finalement, du protestantisme. Savoir que la vérité religieuse ne doit se prouver que par l'Écriture sainte seulement. Or, la tradition, représentée par l'Église, ne comptait pour rien à ses yeux. Notre foi est établie sur l'Écriture sainte et sur la tradition. Or, Léon X, le pape, par la bulle Exsurge Domine, lancée au printemps 1520, Il condamne 41 des propositions de Luther. Et Luther lui-même ne se rétracte pas. S'il ne se rétracte pas dans les 60 jours, doit être excommunié. C'est la sentence. C'est tragique. C'est compréhensible. Et ce pape, qui était d'origine étrange, Léon X, qui était pape de 1513 à 1521, l'année où finalement Luther est condamné, eh bien, c'était le deuxième fils de Laurent de Médicis, surnommé le Magnifique. Il est né à Florence le 11 décembre 1475. Il est devenu pape très jeune, à 37 ans. Mais presque dès son berceau, imaginez, pour vous montrer les certains abus de l'Église de l'époque, il a été nommé protonotaire apostolique, presque à son berceau. Il n'avait pas encore 14 ans lorsque le pape Jules II l'a nommé cardinal diacre du titre de Sainte-Marie in Dominica. Il a été fait prisonnier à la bataille de Ravenne en 1512. Il a été prisonnier en France, ou enfin retenu en France pendant près d'une année. Puis de retour en Italie, l'année suivante, en 1513, il est pape le 11 mars. Il a 37 ans. Mais on peut dire de lui que c'est le grand écrivain luthérien Ludwig Pasteur, qui s'est d'ailleurs converti au catholicisme, un historien des papes, qui a écrit, avant de se convertir, en ce qui concerne les mœurs de ce pape, comme cardinal, d'une réputation absolument sans tache, il jouit vraiment d'une réputation absolument sans tache. Il n'existe pas de preuve que comme pape il ait vécu autrement. Il était d'une bonté, d'une générosité rare. Mais on peut lui reprocher d'avoir trop pensé à élever ses proches en grade. Ça se faisait couramment à l'époque. Et la révolte de Luther a été un des grands soucis de Léon X. Luther, dont les théories n'étaient pas tellement orthodoxes dès 1515, je vous le avais dit, il a fait afficher la veille de la Toussaint de l'année 1517 au porche de l'église de Wittenberg 95 thèses contre les indulgences. Contre les indulgences, pourquoi contre les indulgences? C'est un problème qui mérite d'être abordé, je crois, le problème des indulgences, ce trafic des indulgences. C'est sous Urbain II, le pape Urbain II, à la fin du 11e siècle, qu'apparaît ce qu'on appelle l'indulgence au sens que ça a pris avec le temps. C'est fini les indulgences, on n'en parle plus. On offre dans ce temps-là à tous les pénitents tenus à l'accomplissement de certaines œuvres de piété, en réparation de leurs fautes, imaginez une réduction applicable à tous, moyennant une autre œuvre qu'ils sont tous invités à accomplir. Puis, au 12e, 13e siècle, il y a le développement, puis des adoucissements, des indulgences. Il y a une croisade d'Orient. Les croisés partent pour l'Orient. Ça reste longtemps la seule indulgence plénière. Ceux qui participaient à la croisade avaient une indulgence plénière. Abolition de tous les péchés. Vers 1250, il y a l'apparition des indulgences applicables aux défunts par mode de suffrage, dit-on. Puis finalement, il y a un jubilé indulgencier, comme on va en avoir un là en l'an 2000. C'est-à-dire que ceux qui se rendent à Rome et qui visitent les églises, qui vont au tombeau de Saint-Pierre, etc., ont une indulgence. Bien compliqué tout ça. Au 15e siècle, on y ajoute de l'argent là-dedans. Et il y a une prédication des indulgences, c'est-à-dire qu'on prêche beaucoup pour obtenir des aumônes. Et puis, pour construire Saint-Pierre de Rome. Alors, ceux qui donnent beaucoup ont plus d'indulgence. Et là, Luther condamne les indulgences, donc en 1517, comme je vous ai dit, la veille de la Toussaint, dans ses thèses. Alors, 2 ans plus tard, le pape Léon X reconnaît les abus. Il reconnaît. C'est un homme cultivé, un homme intelligent, un homme qui comprend le bon sens, mais il maintient le principe des indulgences, il n'ose pas tout changer d'un seul coup. Et au Concile de Trente, qui va être la réforme de l'Église catholique après que les réformateurs protestants aient fait la leur en dehors de l'Église, bien le Concile de Trente, à sa 21e session, réforme les indulgences. Et quelques années plus tard, il y a la suppression des indulgences au monde. On n'a plus le droit, en donnant de l'argent, d'obtenir des indulgences. Il y a une excommunication même de ceux qui trafiquent les indulgences et qui obtiennent de l'argent comme ça, pour construire quelque chose ou pour même faire du bien. Défendu. Et en 1967, le pape Paul VI, dans sa constitution apostolique Indulgentiarum Doctrina, la doctrine des indulgences et la suppression des... comment est-ce qu'on passe ça? De dire que c'est 3 ans, c'est 300 ans, c'est... il y a une simplification. Ça a tout disparu. C'est heureux. Car c'était lié à toute une tarification depuis longtemps tombée en désuétude, d'ailleurs. Alors, on sait, par rapport au pardon des péchés, la discipline ecclésiastique a été longue à se mettre en place. Au premier temps, au début de l'Église, le pénitent vivait à l'écart de la société jusqu'à ce qu'il ait reçu l'absolution et qu'il soit réintégré dans l'Église. Puis à partir du 6e siècle, les pénitents ont tarifié à telle faute correspondait telle peine. Et c'est comme ça que c'est arrivé petit à petit qu'il y a eu des indulgences. Passons au 13e siècle. Il y a des abus qui sont signalés dans l'octroi de la prédication des indulgences partielles. Ces abus sont réprimés. Dans l'Église, il y a toujours des réformes, mais il y a toujours du monde pour retomber. Mon Dieu, quand on fait notre chemin de croix, on voit bien que le Christ est tombé 3 fois. Eh bien, l'Église, elle retombe. C'est nous qui la faisons retomber, car nous sommes l'Église. Mais tout ça, ça, c'est des abus qui vont renaître particulièrement à la fin du 14e et 15e siècle. Là, ça aboutit, comme je disais, à la protestation de Luther, contre l'évêque Albert de Brandebourg, qui payait, lui, au pape, ses évêchés, qu'il occupait à Magdebourg, puis Mayen. Il payait pour avoir des... C'était la simonie. C'était effrayant. Mais c'était pas que ça, parce qu'il y avait des détournements de fonds par des particuliers qui étaient rares. Il faut bien reconnaître que les sommes recueillies à l'époque servent généralement, et les protestants sont prêts à l'admettre, à des œuvres d'utilité publique ou de défense de la chrétienté, les églises, les hôpitaux, les écoles, les digues des Pays-Bas, de la Hollande, il fallait reconstruire les digues, des ponts, des ports, des fortifications dans la lutte contre les musulmans turcs. Mais l'argent envahissait le système, et ce qu'il y a de légitime dans la protestation de Luther est entendu par l'Église, et Léon X reconnaît que les doctrines inexactes ont été prêchées, puis c'est le Concile de Trente qui va réformer ça. Donc on doit une réforme en partie à Luther, au sein même de l'Église, il faut le reconnaître. Et cette attaque contre les indulgences nous a aidés. Remercions Luther, mais admettons qu'il y est allé d'une façon un peu trop solide peut-être, mais ça nous a fait du bien. On peut s'énoncer de cette façon-là quand on dit que c'est les abus de l'Église. Alors il y a les tares de l'Église. Pas les torts, mais les tares, T-A-R-E-S. À la fin du 15e siècle, au début du 16e, j'ai parlé tout à l'heure d'Alexandre VI, mais bien d'autres choses. C'est vrai que ces difficultés-là étaient devenues telles, c'était devenu si voyant qu'il y avait là des scandales de toute nature, de haut en bas de la hiérarchie cléricale. Puis un coup de balai devenait, pour ainsi dire, indispensable. Il y a bien des cardinaux et des prêtres qui pensaient comme ça, et même des papes. On souhaitait une réforme. Comment la faire? Mieux, seule une opération chirurgicale, on pourrait dire, pourrait débarrasser l'Église de la lèpre qui la défigurait, d'où la réforme protestante, que suivait une tardive réaction catholique qui est le Concile de Trente. Mais tout ça, c'est une façon de regarder les choses. Il y a une autre façon. Malgré l'énorme dossier qu'on peut aisément réunir sur les abus absolument indiscutables, les scandales qui enlaidissaient l'Église, notre pauvre mère l'Église, il n'est pas douteux, en sens inverse, qu'on assiste au cours d'une longue pré-réforme, si on peut dire, d'avant 1517, 1521 ou 1529, on assiste à une fermentation très féconde sur le plan religieux, non seulement dans les milieux ecclésiastiques, mais aussi, ce qui était nouveau, dans les cercles laïcs de plus en plus larges, grâce justement aux prêtres et à des saints prêtres. Cette vitalité chrétienne, on la trouve évidemment surtout dans les villes et chez des gens qui ont accès à la civilisation de l'écrit. Mais elle déborde de plus en plus dans les campagnes. On voit ça, mettons, en Bretagne, une multiplication de chapelles rurales. Il y a une extension de certaines confréries de laïcs proprement spirituelles, comme des confréries du rosaire, grand attachement à la Vierge. Dans des districts qui sont pas urbains, plutôt dans les banlieues et les campagnes. Le dossier de cette fermentation chrétienne des 14e, 16e siècles serait très volumineux si on voulait le faire. Je pourrais vous en parler pendant des heures. On voit en bonne place le développement des mystiques rhénanes et flamandes. Est-ce que je vous en ai assez parlé quand je vous ai parlé de Ruysbroeck, d'Henri Suzeau, etc., de ces grands mystiques merveilleux? Puis il y a l'essor de l'humanisme religieux, hein, avec son exigence de retour aux sources. Pensons à Érasme. Il y a la montée d'une piété plus personnelle aussi. Oui, une montée de piété personnelle comme on la cherche aujourd'hui même encore. Vous savez, l'Église est perpétuellement en réforme. C'est nous, chrétiens, catholiques, qui pouvons opérer cette réforme, individuellement, et rayonner autour de nous. Et cette réforme est moins liturgique que celle du Moyen-Âge classique, par exemple. Et tous ces courants, qui ont lieu en même temps et qui sont souvent conjoints, qui ont des rapports les uns avec les autres, ça marque profondément les deux réformes, même la réforme protestante, comme la réforme catholique, évidemment, puisque ça se déroule au sein de l'Église catholique. C'est symptomatique, d'ailleurs, que les frères de la vie commune, dont je vous ai parlé à l'occasion, n'ont pas nettement choisi entre le statut de religieux et celui de simple confrère. Hein. C'était comme un institut laïque, comme il y en a aujourd'hui. Et cette ambiguïté signifiait une évasion, disons, hors du système trop exclusivement clérical. Hein. Ça peut surprendre, on pense que c'est nouveau, ça. Pas du tout, ça existait dans ce temps-là, les frères de la vie commune. Comme d'ailleurs le tiers-ordre de Saint-Dominique, mais particulièrement le tiers-ordre de Saint-François. Vous savez que les tertiaires de Saint-François, peu après la mort de François, ont réussi à établir la paix entre des seigneurs d'Italie parce qu'ils ne voulaient pas se battre les uns contre les autres avec leurs fourches et leurs couteaux pour défendre les ambitions d'un seigneur contre un autre seigneur. Eux qui étaient assujettis à des seigneurs. Ils se disaient, nous sommes des frères dans le troisième ordre de Saint-François. Nous sommes des franciscains laïcs, quoi. Puis il y a aussi, à cette époque, le succès considérable de l'Imitation de Jésus-Christ. Je vous ai consacré une émission à l'Imitation de Jésus-Christ, puis à celui qui l'aurait écrit, vraisemblablement, le bienheureux Thomas à Kempis. Et ce succès considérable de l'Imitation de Jésus-Christ, ça prouve qu'il y avait une place croissante en Occident pour un idéal chrétien fait de pauvreté, de dévouement puis de piété personnelle. Hein? Alors ne croyons pas que l'Église était complètement décadente, qu'il n'y avait rien, il a fallu Luther pour faire une réforme. Faut pas exagérer. Faut admettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que son attaque contre les indulgences n'a pas été une mauvaise chose. Il y avait là des abus épouvantables. La réforme luthérienne, en fait, la réforme de Luther et de ceux qui l'ont suivi, en bonne partie, et qui étaient sincères, hein, pour le reconnaître, c'est issu de la piété catholique des 14e et 15e siècles. Mais je crois que c'est tout aussi vrai de dire que la réforme, définie par le Concile de Trente, est aussi héritière de cette piété catholique des 14e et 15e siècles et des critiques des protestants. D'où la nécessité de corriger les idées trop longtemps reçues sur la décadence de l'Église d'Occident entre le 14e et le 16e siècle. Moi, j'en ai marre de ces attaques totale contre l'Église, comme si l'Église n'était qu'une abominable chose à certains moments de son histoire. Elle n'est pas qu'une abominable chose, loin de là. Elle est toujours d'abord sainte en elle-même. Elle est le corps mystique du Christ. Elle est fondée par Jésus-Christ sur Pierre. Mais elle est entachée par ses membres pécheurs. Et ce n'est jamais total. Il existait un blocage au sommet, dans ce temps-là, qui ne va s'enlever qu'après le Concile de Trente, d'accord. Mais toutefois, à la base, si l'Église, c'est aussi la base, mais il y a de nombreuses congrégations religieuses qui se réformaient. Il y avait des ordres nouveaux qui se créaient. Les Capucins, ce sont quand même des hommes merveilleux dans l'Église, ça, encore aujourd'hui. Les Ursulines, les Théatins, vous connaissez peut-être ça, je vous en ai déjà parlé. J'ai fait 4 grands saints Théatins un jour, dont le fondateur. Il y a les Jésuites, hein. C'est antérieur au début du Concile, ça. Les Jésuites, ça apparaît presque en même temps que Luther. Imaginez, un grand effort missionnaire a été accompli de l'autre côté de l'Atlantique dès la découverte de l'Amérique. Je présenterai dans quelques jours, le 26, je crois, au Centre Unitas, une magnifique entrevue. Avec Christian Duverger. Sur justement cette mission admirable de l'Église, au même moment où le protestantisme naissait, où les franciscains, admirables, ont amené les Aztèques à cesser leur rituel criminel où ils tuaient des milliers et des milliers et des milliers de jeunes gens en leur ouvrant la poitrine pour offrir leur cœur palpitant au soleil afin d'obtenir de meilleures récoltes et de vivre de façon plus à l'aise, disons, pour nourrir leurs enfants, leurs femmes, etc. C'était une religion païenne, terrible, qui avait de bons aspects, d'accord, mais qui avait aussi des aspects terribles. Vous pensez à l'apostolat de Saint-François-Xavier dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, au mois de décembre. Apostolat qu'il a accompli en Inde et au Japon. Il a failli rentrer en Chine. Ça se situe avant la véritable reprise en main de l'Église romaine, ça. Tout ça s'est fait au même moment. Alors, l'Église était belle quand même, tout en ayant bien des défauts. Les historiens polonais qui étudient leur pays au 14e et 15e siècle, ils disent, tous, qu'il s'agit de l'époque du grand développement de l'Église dans leur pays. Et puis, de la multiplication des paroisses à cette époque. Et de même, plus à l'ouest, on voit, au niveau de la vie religieuse quotidienne, se multiplier les églises, les chapelles, même les statues. Puis il y avait de belles statues à l'époque souvent. Oh mon Dieu! On essaie de les avoir chez soi ou dans des musées. Les retables, les beaux retables. Vous savez, ce qu'on met au-dessus d'un autel, contre le mur, c'est ça un retable, avec des peintures, ou des sculptures, c'est super, très souvent, surtout à cette époque. Et tout ça, on voit aussi se développer des confréries, et puis, il y a une tendresse pour l'enfant Jésus, pour la Vierge, pour le Christ des douleurs aussi. Oui, le Christ des douleurs. Vous savez que la plus grande sainte de l'histoire de l'Église, peut-être Thérèse d'Avila, avait une grande tendresse pour le Christ douloureux, que l'on peut cultiver avec le Saint-Suaire de Turin, dont je vous ai parlé lundi, comme preuve de la résurrection. Je me suis aventuré peut-être dans des sentiers difficiles, mais je ne crois pas, je crois avoir raison. Et alors, cette piété des laïcs a peut-être été, faut le dire, inégale, d'un pays à l'autre. Mais il faut souligner aussi celle de l'Allemagne, il y avait une bonne piété dans l'Allemagne de Luther. Et voici ce qu'écrivait à ce sujet en 1517, l'année même de l'entrée en scène de Luther, le secrétaire d'un cardinal italien. Voici ce qu'il fait, cette description qui est très intéressante, ça vaut la peine, hein. Je vous lis le texte. « Les femmes comme les hommes fréquentent beaucoup les églises, dans lesquelles chaque famille a son banc. Toutes les églises sont parquetées et les bancs rangés en ligne, d'un côté à l'autre, avec un passage au milieu comme dans les écoles. Le chœur reste vide, il est réservé aux prêtres. Là, on ne parle pas d'affaires et on ne s'amuse pas. comme dans les églises d'Italie. Parce que dans les églises d'Italie, on parlait, il y avait même des chiens qui rentraient dans les églises. Hein. Alors, là, en Allemagne, donc, on ne parle pas d'affaires et on ne s'amuse pas comme dans les églises d'Italie. On suit avec dévotion la messe et l'office divin. Puis ce cardinal, le secrétaire du cardinal italien, ajoute, « Tous restent à genoux durant les prières. » Alors, ça fait comprendre tout ça, hein, que le jugement sur la vie religieuse allemande du début du 16e siècle, énoncé par le meilleur historien du Concile de Trente, qui est Mgr Jedin, c'est... ça vaut la peine qu'on le sache. Parce que souvent, on pense que Luther était un réformateur qui arrivait dans une église abominable et rien qu'abominable. Je lis le texte. Il ne fait aucun doute que l'on réforma dans l'église allemande plus que partout ailleurs. Si les événements prirent ensuite un autre tour, la raison n'en est pas que le ministère pastoral fut plus négligé, le clergé plus mauvais, le peuple plus ignorant et moins pieux que dans d'autres pays. C'est au contraire que les laïcs, écoutez bien, la bourgeoisie des villes et la classe montante des intellectuels présentaient à leurs prêtres des exigences plus grandes, qu'ils ressentaient plus vivement chez eux l'écart entre l'idéal évangélique et la réalité, et surtout qu'ils étaient décidés à corriger radicalement tous les abus prétendus ou réels. On a un peu le même phénomène ici au Québec où beaucoup d'intellectuels, de gens de la bourgeoisie, des laïcs, étudiant la Bible et étudiant les évangiles, étudiant l'histoire de l'Église, réagissent contre leurs curés qui sont fatigués, qui sont seuls, réagissent contre leurs évêques qui ne seraient pas ce qu'ils souhaiteraient. Pourtant, nous avons de bons évêques au Québec. Mais ils sont critiques, ils ont l'esprit critique, ils ont l'esprit réformateur. Et ils se distancient de l'Église et souvent, c'est en partie une des raisons pour lesquelles il y a une désaffection de la pratique dans nos églises. Alors le besoin de réforme se fait sentir en Allemagne, certes à cause des faiblesses très visibles de l'Église, mais tout autant à cause de la progression de ce que je viens de vous dire, la conscience chrétienne dans une élite plus large qu'autrefois et qui déborde le monde clérical. Alors il faut donc, quand on a appris certaines choses, être fidèle à l'Église, pas se penser meilleur que nos prêtres, pas se penser meilleur que nos évêques et que le pape. Cessons donc, nous les laïcs, de penser que nous avons le monopole de ce que Dieu veut dans l'Église. Nous devons être des saints d'abord. Oh, c'est pas facile. Il y a un autre élément au dossier au sujet de Luther, c'est sa violence verbale, violence épouvantable, qui est allée croissante, cette violence, à mesure qu'il avançait en âge. Il est évident qu'elle n'a pas facilité la réconciliation entre les chrétiens du 16e siècle, parce qu'il a même attaqué les protestants de façon épouvantable. Hein. Il attaquait Calvin, il attaquait tout le monde. Et sur l'Église, bien, il a traité le pape d'antéchrist. Ça s'est déchaîné contre, comme je vous l'ai dit, plusieurs ennemis. D'abord contre le pape et l'Église romaine. Il a opposé la théologie de la croix à la théologie romaine de la suffisance, disait-il. Il attaquait sans relâche les portes de l'enfer et le trône de Rome. Il a qualifié le pape de pourceau du diable. Il disait que la messe était une invention de l'enfer. Pourtant, il disait tout le contraire au début. Comme quoi il changeait. Il disait que le sacrement de l'ordre était le signe de la bête dont parle l'Apocalypse. Des ordres monastiques, il a assuré sommairement qu'ils avaient cessé de comprendre les œuvres et la foi divine. Voyons donc, il y avait des réformes dans les monastères. D'accord, il y avait des monastères décadents, il y en a encore aujourd'hui. Mais c'est pas pour une raison pour généraliser. Cette généralisation est très, très, très désagréable. Que je n'aime pas les gens qui détestent les protestants en généralisant. Moi, j'admire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses chez les protestants. Leur flamme, leur feu, leur enthousiasme, leur passion pour Jésus-Christ. Leur enthousiasme. Mon Dieu, que ça nous manque parfois. Hein? Et quelques mois avant sa mort, Luther publie un virulent traité contre la papauté romaine. d'appuyer par lui la grande calamité de la terre, le plus effroyable malheur qu'ait suscité la puissance de Satan. Épouvantable. Une de ses dernières prières sur son lit de mort s'adresse au Père Céleste. Il dit que le pape aborrit et tous les impies offensent, que le pape aborrit et tous les impies offensent, persécutent et blasphèment. En somme, nous sommes tous des pécheurs, quoi, si nous ne sommes pas luthériens. Il déraillait, il ne faut pas lui en tenir grief. Il pense qu'il était malade, vraiment malade à la fin de ses jours. Parce qu'il a fait tellement de belles choses, puis il a écrit tellement de belles choses, et on lui doit tellement beaucoup pour la réforme de notre propre Église, que c'est triste un peu de signaler ce que je signale. Luther n'a pas été tendre non plus pour Zwingli, pour les réformateurs de Zurich et de Bâle, comme Colampad. Puis, ils avaient abandonné, dit-il, voyez-vous, la croyance en une présence corporelle du Christ dans le pain et le vin de la scène. Alors, ça l'irritait. Raison pour laquelle ils étaient appelés de façon injurieuse des sacramentaires. Oh mon Dieu! Ce cher docteur Martin Luther m'a traité Erasme, qui était catholique, de venimeux polémiste, de pourceau d'Épicure, d'écrivain ridicule, étourdi, sacrilège, bavard, sophiste, ignorant. Qualifié sa doctrine de mélange de colle et de boue, et de balayure et d'ordure, comme cet homme ne savait pas retenir sa langue. Il a fallu attendre le 20e siècle pour que soit redécouvert l'Érasme chrétien et catholique. Puis, il a parlé aussi contre les bandes pillards, des meurtrières, des paysans, s'est attaqué aux Juifs aussi. Les amitiés judéo-chrétiennes, en souvenir de Jules Isaac, le représentant de l'Église réformée de France, a désavoué publiquement les écrits désolants rédigés par Luther contre les Juifs. J'ose pas vous lire ça, c'est épouvantable. Puis d'ailleurs, Hitler a pris ces textes de Luther pour faire sa propagande anti-juive. Alors tout ça est très triste quand on pense que cet homme a fait tellement de grandes choses et qu'on lui doit tant. Vous voyez, comme dans l'écuménisme, il faut savoir pardonner. Et d'ailleurs, dans les cycliques du pape sur l'écuménisme, Ut unum sint, Jean-Paul II a publié cet article le jour de l'ascension de notre Seigneur, le 25 mai 1995, et il dit bien que nous devons nous laisser mener par la charité. Il faut suivre la charité sans réticence. Puis il faut souligner un état d'esprit de bienveillance réciproque. Et nous sommes loin des guerres de religion du 16e et 17e siècle en France. Nous sommes loin de tout ce qu'a dit Luther sous les effets de, je ne sais pas, de quelque chose qui tournait pas rond. Regardons plutôt ce qu'il a fait de beau, comme je vous ai dit, et quelle ouverture d'esprit puis de cœur témoigne Jean-Paul II. C'est ça qu'il faut imiter, en définitive, parce que son ouverture d'esprit détermine une attitude qu'on appelle la métanoïa, c'est-à-dire de changement de mentalité, de conversion. Alors, quand on voit le pasteur Daniel Pourchaud, quand on voit tous ces grands luthériens merveilleux, sachons que le pape a bien raison de nous d'aller les visiter, de leur parler, de prendre en compte les critiques qui nous sont adressées par les protestants, et qu'il faut aborder aussi notre cœur avec le sentiment que l'orthodoxie doit primer, que les sacrements, nos sacrements sont valides. Ça nous approche à des églises orientales, des églises nestoriennes, des églises coptes, mais petit à petit, ça nous approchera, je l'espère, d'une conception plus fraternelle à l'égard des luthériens, et que nous pourrons trouver, en dépit de certains abus de Luther et des condamnations qu'il a subies en 1521, qu'il a reçues sévèrement, eh bien que, malgré tout, nous sachions comprendre qu'il avait sur bien des points raison malgré tout, et que nous devons apprécier ce qui s'est passé dans l'Église malgré tous nos malheurs, et que nous devons finalement prier les uns pour les autres, et puis nous attacher les uns aux autres comme de vrais frères, collaborer ensemble pour que le Christ soit mieux connu et mieux aimé et mieux apprécié.